lettre 7. Platon aux parents et aux amis de Dion, bonheur et sagesse. Vous cherchez à me persuader dans votre lettre que vous êtes dans les mêmes dispositions que Dion, et vous m'engagez à m'associer à vos desseins, autant que j'en suis capable, en action et en parole. Si vous partagez réellement les idées et les projets de Dion, vous pouvez compter sur moi. Sinon, je vous conseille d'y penser plus d'une fois. Or, quelles étaient ses idées et ses projets? Je n'ai pas là-dessus de simples conjectures, mais une connaissance exacte. Lorsque je vins pour la première fois à Syracuse, Dion avait à peu près 40 ans, c'est l'âge qu'a aujourd'hui son fils, Hipparinos. Et dès ce moment, il avait la pensée qui ne l'a jamais abandonnée, depuis, qu'il fallait rendre les Syracusains à la liberté et leur donner de sages lois. Et je ne serais pas étonné qu'un dieu eût inspiré au fils les mêmes idées qu'au père sur le gouvernement de sa patrie. Or, comment avait-il conçu ce dessein? C'est ce qu'il est bon d'apprendre aux jeunes gens comme aux vieillards. Je m'efforcerai donc de vous le raconter depuis le commencement, car rien ne convient mieux aux circonstances présentes. Dans ma jeunesse, il m'est arrivé ce qui arrive à tant d'autres. Je me promis, dès que je serai mon maître, de me jeter dans les affaires publiques. Et, à ce moment, voici dans quelle situation je les trouvais. Comme il y avait un grand nombre de mécontents, un changement était devenu nécessaire. 51 magistrats se mirent à la tête de cette révolution. 11 dans la ville, 10 au Pirée, pour la direction des affaires de la place publique et l'administration civile. Les 30 autres demeurèrent souverains maîtres. Quelques-uns de mes parents et de mes amis faisaient partie de ces derniers et m'appelèrent bientôt à des emplois qu'ils croyaient me convenir. Ma jeunesse empêche que ce qui m'arriva doive vous étonner. Je m'imaginais qu'ils allaient faire sortir la République de la voie criminelle où elle s'était engagée pour la replacer dans la route de la justice, et j'étais attentif à toutes leurs démarches. Mais je vis bientôt qu'ils n'eurent pas besoin de demeurer longtemps au pouvoir pour faire regretter le temps passé comme l'âge d'or. Entre autres violences qu'ils commirent, ils ordonnèrent à Socrate, mon vieil ami, l'homme que je n'hésite pas à proclamer le plus juste de notre siècle, d'aller avec quelques autres arrêter et traîner à la mort un citoyen qu'ils avaient condamné. Ils voulaient ainsi le rendre, de gré ou de force, complice de leur conduite. Mais Socrate refusa de leur obéir et aima mieux s'exposer à tous les dangers que de s'associer à leurs desseins impies. Témoin d'un tel crime et d'autres non moins odieux, je m'éloignai avec indignation du théâtre de ces malheurs. Peu de temps après, les 30 tombèrent, et la République changea de face. J'éprouvai de nouveau, quoique avec moins d'ardeur, le désir de me mêler des affaires et de l'administration de l'État. Mais à cette époque, comme dans tous les temps de révolution, il se passa des choses déplorables, et il ne faut pas trop s'étonner si, au milieu de ces désordres, l'esprit de parti pousse quelquefois à de trop violentes vengeances. Pourtant, il faut avouer que ceux qui revinrent à Athènes montrèrent pour la plupart beaucoup de modération. Mais, par une nouvelle fatalité, des hommes, alors puissants, traînèrent Socrate, mon ami, devant un tribunal sous le poids de l'accusation la plus odieuse et la plus étrangère à son caractère. Quelques-uns de ses ennemis le dénoncèrent comme impie, et les autres, après l'avoir condamné, le livrèrent à la mort, lui qui, pour ne pas commettre une impiété, avait refusé de prendre part à l'arrestation d'un de leurs amis, quand ils gémissaient eux-mêmes dans les malheurs de l'exil. Quand je vis ces crimes, quand je connus les hommes qui nous gouvernaient, nos lois et nos mœurs, plus je me sentis avancé en âge, et plus je fus effrayé de la difficulté de bien gouverner un État. On aurait pu l'entreprendre sans des amis fidèles et des compagnons dévoués. Il n'était pas aisé d'en découvrir, s'il y en avait, car nous ne vivions plus suivant les institutions et les mœurs de nos pères. D'un autre côté, on ne pouvait en former de nouveaux qu'avec les plus grandes difficultés. Les lois et les coutumes étaient corrompues et tombées dans le dernier mépris. De sorte que moi, naguère si plein de zèle et d'ardeur pour l'intérêt public, devant le spectacle de ce profond et universel désordre, je me sentis saisi de vertige. Cependant, je ne cessais pas d'observer l'état des choses et la politique en général, en attendant que quelque heureux changement me donnât l'occasion d'agir. Mais je finis par me convaincre que tous les états de notre temps sont mal gouvernés et que leurs lois sont tellement vicieuses qu'elles ne subsistent que par une sorte de prodige. Je tirai alors cette conséquence honorable pour la vraie philosophie, qu'elle seule peut tracer les limites du juste et de l'injuste, soit par rapport aux particuliers, soit par rapport au gouvernement, et qu'on ne peut espérer de voir la fin des misères humaines avant que les vrais philosophes n'arrivent à la tête des gouvernements, ou que, par une providence toute divine, ceux qui ont le pouvoir dans les États ne deviennent eux-mêmes philosophes. C'est avec ces idées que je fis mon premier voyage en Italie et en Sicile. À mon arrivée, je vis, mais avec dégoût, la vie prétendue heureuse qu'on y mène, les tables de Sicile et de Syracuse, l'habitude de se rassasier deux fois le jour, de ne jamais passer les nuits seules et de se livrer à tous les plaisirs de la même espèce. Est-il possible qu'un seul des hommes qui habitent ce monde eût-il les plus heureuses dispositions? Si on l'élève dès son enfance dans des mœurs si corrompues, devienne jamais sage, il ne sera jamais tempérant, et de même des autres vertus. Il n'y a pas de loi qui puisse jamais garantir le repos d'un État si les citoyens se persuadent qu'il faut tout dissiper en dépenses énormes, et que, sans s'occuper d'autres affaires, on ne doit songer qu'aux délices de la table et aux plaisirs raffinés de l'amour. Avec de telles mœurs, ces États doivent passer par toutes les vicissitudes de la tyrannie, de l'oligarchie et de la démocratie, sans jamais se fixer. Car ceux qui les gouvernent ne sauraient souffrir le seul nom d'un gouvernement juste et fondé sur l'égalité de la loi. Pénétré de ces observations, qui étaient venues s'ajouter aux précédentes, je partis pour Syracuse. Peut-être n'est-ce qu'un hasard, mais il me semble qu'alors la main d'un dieu jetait les semences de ce qui, depuis, est arrivé à Dion et aux Syracusains, et de ce qui vous arrivera à vous-même, je le crains, si vous ne suivez ces conseils que je donne pour la seconde fois. Mais comment mon voyage en Sicile a-t-il été le germe de tous les événements qui sont survenus depuis? Je vais vous l'apprendre. Je vis souvent Dion, alors encore jeune. Je développais devant lui, dans nos conversations, les principes que je croyais propres à faire le bonheur des hommes, et je l'engageais à les mettre en pratique, préparant ainsi, sans m'en douter, la ruine de la tyrannie. Dion, avec l'aptitude qu'il avait à comprendre toutes choses, et surtout celles que je lui enseignais, s'en pénétra plus promptement et plus profondément qu'aucun de mes jeunes disciples. Et il résolut dès lors de mener une vie toute différente de celle des Italiens et des Syracusains en général, et de préférer la vertu aux plaisirs et à la mollesse. De là sa haine pour tous les partisans de la tyrannie jusqu'à la mort de Denis. À cette époque, il s'aperçut que cette conviction, qu'il avait puisée aux sources de la saine raison, avait jeté des racines dans d'autres âmes que la sienne. Ces nouveaux sages étaient en petit nombre, mais ils croyaient que par un bienfait des dieux, ils pouvaient compter parmi eux le jeune Denis, et ils regardaient cette circonstance comme le plus grand bonheur qui pût arriver, et à lui-même, et à Syracuse. Se rappelant alors notre liaison, la facilité que j'avais eue à lui inspirer le désir d'une vie plus honorable et plus vertueuse, il jugea absolument nécessaire que je vinsse à Syracuse pour le seconder dans ses projets. S'il eût pu réussir dans son dessein sur Denis, il avait la plus grande espérance d'arriver sans meurtre, sans massacre, sans tout ce cortège de maux qui nous fait gémir aujourd'hui, à corriger les mœurs de sa patrie et à lui donner le vrai bonheur. » Dans ce louable but, il persuada à Denis de m'appeler près de lui. Il m'invitait lui-même à négliger tout pour accourir, de crainte que d'autres ne s'emparassent de l'esprit de Denis pour le détourner de la vertu. Il ajoutait une longue exhortation. « Quelle occasion plus favorable, me disait-il, faut-il attendre pour l'exécution de nos projets que celle qui nous est offerte par la divine Providence ?» Il me mettait sous les yeux la grandeur des États de Denis en Sicile et en Italie, le pouvoir qu'il y exerçait lui-même, la jeunesse du prince et son goût pour l'étude et la philosophie. Il m'assurait que ses neveux et ses parents étaient tout disposés à conformer leur conduite à mes principes et très capables d'entraîner Denis avec eux. De sorte qu'aujourd'hui ou jamais, on pouvait espérer voir enfin réunis dans la même personne la philosophie et le souverain pouvoir. Telles étaient, entre bien d'autres, les raisons que m'alléguait Dion. Pour moi, je n'avais pas grande confiance dans tous ces jeunes gens, car les passions de la jeunesse sont inconstantes et passent aisément d'une extrémité à l'autre. Mais je connaissais Dion, et la gravité naturelle de son caractère, jointe à la maturité de son âge, me rassurait. Enfin, après bien des réflexions et des hésitations sur le parti qu'il fallait prendre, je me décidai par cette considération que, si on voulait réaliser ses idées sur la législation et le gouvernement, le moment était venu de tenter l'entreprise. « Il n'y a qu'un homme à convaincre, me disais-je, pour avoir le moyen de faire tout le bien possible. » Telle est la pensée, telle est l'ambition qui m'a fait quitter ma patrie, et non pas les motifs qu'on m'a prêtés, mais surtout le respect de moi-même et la crainte d'avoir à me reprocher un jour de ne rien faire qu'en parole, sans avoir la force d'en venir à l'exécution. Je m'exposais aussi d'un autre côté à trahir l'hospitalité et l'amitié de Dion, qui courait d'assez grands dangers. S'il lui arrivait quelque malheur, s'il venait vers moi, me disais-je, victime de l'intrigue et exilé par Denis et ses ennemis, et qu'il m'adressât ces mots, « Ô Platon, me voilà chassé de ma patrie. Je n'avais besoin pour résister à mes ennemis ni de soldats ni de chevaux, mais de cette parole qui persuade, et dont tu sais si bien faire usage pour diriger les jeunes gens vers la vertu, le bien et la justice, et pour les engager à une amitié mutuelle et sincère. Faute d'avoir reçu de toi un pareil secours, j'ai été forcé d'abandonner Syracuse et de venir ici. Et ce n'est pas tant en mon nom que je te fais des reproches, mais cette philosophie que tu célèbres sans cesse, que tu te plains de ne pas voir assez honorée par les autres hommes, ne l'as-tu point trahie en moi autant que cela était en ton pouvoir? Si j'avais été à mes gardes, tu serais sans doute accouru à mon secours dès que je t'aurais appelé, ou ta conscience t'aurait reproché d'être le dernier des hommes. Maintenant, est-ce en alléguant la difficulté du voyage, la longueur et le danger de la traversée, que tu espères justifier ta lâcheté? Non, ne l'espère pas. Quelle réponse raisonnable aurais-je pu faire à un tel langage? Aucune, sans doute. J'avais donc des raisons aussi justes et aussi fortes que l'homme peut en avoir pour abandonner mes habitudes honorables et aller vivre sous une tyrannie qui ne semblait convenir ni à mes principes ni à mon caractère. Mais, en partant, je m'affranchis de tout reproche envers Jupiter hospitalier et envers la philosophie qui n'aurait pas manqué de m'accuser si j'avais fait voir une honteuse faiblesse ou une lâcheté déshonorante. Pour être court, je trouvais tout en désordre autour de Denis. La calomnie accusait Dion de prétendre à la tyrannie. Je le défendis autant que je pus, mais je n'avais pas grand pouvoir. Et environ 4 mois après, Denis l'accusa d'aspirer à la tyrannie, le fit jeter sur un petit navire et le chassa honteusement. Après cela, tous les amis de Dion redoutèrent avec moi que, sous prétexte de complicité, la vengeance du tyran ne tomba sur quelqu'un de nous. On fit même courir le bruit dans Syracuse que Denis m'avait fait mourir comme l'auteur de tout ce qui s'était passé. Mais Denis, voyant où nous en étions, et craignant que le désespoir ne nous inspirât quelque parti violent, nous traita avec beaucoup d'égards. Il chercha même en particulier à me consoler et à m'encourager, et me conjura de demeurer auprès de lui. Ma retraite était offensante pour sa gloire, et je l'honorais en restant. Aussi feignit-il de me prier avec beaucoup d'instance. Or, nous savons que les prières d'un tyran sont des ordres. Pour prévenir ma fuite, il me donna dans la citadelle même un logement, d'où aucun patron de navire n'aurait pu m'enlever. Je ne dis pas seulement contre sa volonté, mais même sans un ordre express de sa part. Et dans le cas où j'aurais pu m'échapper seul, il n'y a pas un marchand, pas un des officiers chargés de surveiller les départs qui, s'il m'eût aperçu, ne se fût emparé de moi et ne m'eût promptement ramené auprès de Denis, surtout parce qu'il s'était répandu un bruit, tout contraire au précédent, que Platon était dans la plus grande faveur auprès du tyran. Qu'y avait-il de vrai là-dessous ? Il faut dire la vérité. Denis trouva de jour en jour plus de plaisir dans mes entretiens et mes habitudes. Il désirait vivement que j'eusse pour lui plus d'estime et d'affection que pour Dion. Il faisait tout pour y arriver. Il négligea pourtant le moyen le plus sûr s'il pouvait y en avoir un. C'était d'étudier et d'apprendre la philosophie en s'attachant davantage à mes leçons. Mais il redoutait ce que lui répétaient les calomniateurs dont il était entouré, qu'en s'engageant trop, les projets de Dion ne vinssent à se réaliser. Cependant, je prenais patience, et je poursuivais l'exécution du dessein qui m'avait amené, en cherchant à lui inspirer l'amour de la vie philosophique. Mais lui, par sa résistance, triompha de tous mes efforts. Voilà ce qui s'est passé pendant mon premier voyage et séjour en Sicile. Peu de temps après, je retournai à Athènes, mais il me fallut bientôt revenir et céder aux pressantes sollicitations de Denis. Quant aux motifs qui m'ont fait entreprendre ce second voyage, et quant à ma conduite à cette époque, je ferai voir tout à l'heure combien elle a été juste et convenable. Je vais auparavant vous exposer ce que vous devez faire dans les circonstances présentes, afin de ne pas négliger le principal objet de ma lettre pour des détails sans importance. J'arrive à mon sujet. Lorsqu'un médecin est consulté par un malade dont le mauvais régime a ruiné la santé, il doit d'abord prescrire un nouveau régime et, si le malade s'y soumet, continuer ses soins. Mais si le malade s'y refuse, selon moi, le médecin doit en homme d'honneur cesser de le voir. S'il continuait ses visites, ce serait un malhonnête homme ou un ignorant. Il en faut dire autant d'un état, qu'il soit gouverné par un seul ou par plusieurs. S'il marche dans une voie droite et régulière, je crois que ceux qui veulent l'aider de leurs conseils ont raison de le faire. Mais si cet état s'écarte entièrement de la route d'une droite politique, s'il enfuit les traces, s'il défend sous peine de mort de se mêler des affaires ou de proposer des changements, s'il ne souffre de conseils que ceux qui flattent ses caprices et ses passions, dans un pareil état, celui qui persisterait à donner des conseils serait indigne du nom d'honnête homme. Le parti le plus honorable est de se retirer. D'après ces principes, quand quelqu'un vient me consulter sur les affaires les plus importantes de la vie, telles que l'acquisition des richesses, les soins à donner au corps ou à l'âme, si sa manière habituelle de vivre ne me paraît pas tout à fait mauvaise, ou s'il semble disposé à suivre mes conseils, je lui en donne de bon cœur et ne me lasse pas avant d'avoir achevé ce que j'entreprends. Mais si on ne me demande pas de conseils, ou qu'on soit évidemment disposé à ne pas suivre ce que je donnerai, je ne vais pas moi-même les offrir, et je ne les impose à personne, pas même à mon fils. Quant à mon esclave, je lui donnerai bien des avis et je le forcerai de les suivre, mais je crois que ce serait une impiété de forcer la volonté d'un père ou d'une mère, à moins qu'ils ne fussent en démence. S'ils mènent une vie qui leur plaise et ne me convienne pas, je ne veux point m'aliéner leur affection par des leçons inutiles, ni non plus les flatter et les aider à satisfaire des passions au sein desquelles il me serait impossible de vivre. Voilà la règle que le sage doit suivre à l'égard de la patrie. quand il la voit mal gouvernée. Il doit parler si ses conseils peuvent être utiles, et si la mort n'en doit pas être le prix. Mais il n'a pas le droit de faire violence à la patrie pour accomplir une révolution politique, quand cette révolution n'est possible que par des massacres et des exils. Son devoir alors est de se tenir en repos, et de prier les dieux pour son bonheur et pour celui de sa patrie. C'est d'après ces principes que je vous conseillerais, et c'est d'après eux que je conseillais autrefois à Denis, d'accord avec Dion, de travailler constamment à acquérir de l'empire sur lui-même, et de se faire des amis et des partisans dévoués pour éviter ce qui était arrivé à son père, qui, après avoir repris et relevé les nombreuses et puissantes villes de Sicile, ruinées par les barbares, ne put trouver pour les gouverner des hommes assez sûrs, ni parmi ses amis, ni parmi les étrangers qu'il avait appelés, ni même parmi ses frères plus jeunes que lui, qu'il avait élevés dès leur enfance et fait princes de simples particuliers qu'ils étaient. Ni la persuasion, ni l'éducation, ni les bienfaits, ni les alliances, n'avaient pu faire d'eux un seul serviteur fidèle, cette fois plus malheureux que Darius qui, se défiant de ses frères et de ses créatures, et n'ayant de confiance que dans les compagnons qu'il avait aidés à soumettre le Mède et le Nuque, divisa son empire en 7 parties, dont chacune était plus grande que la Sicile tout entière, en donna une à gouverner à chacun de ses compagnons, et trouva en eux des officiers fidèles qui ne le trahirent jamais et ne se trahirent jamais les uns les autres. D'ailleurs, modèle accompli du bon législateur et du grand roi, puisque les lois qu'il établit ont conservé jusqu'à ce jour et maintiennent encore l'empire des Perses. Il en est de même des Athéniens qui, étant devenus maîtres de plusieurs villes grecques, peuplées par les barbares, et qui n'étaient pas même des colonies d'Athènes, surent y soutenir leur autorité pendant 70 ans, en se faisant dans leur sein des amis fidèles. Denis, au contraire, quoiqu'il eût, en la sagesse, de rassembler, pour ainsi dire, toute la Sicile à Syracuse, faute de pouvoir se fier à personne, eut grande peine à se maintenir, parce qu'il n'avait ni amis ni serviteurs dévoués. Et le manque d'amis est le signe le plus éclatant d'une âme vicieuse, comme le grand nombre d'amis est la meilleure preuve de notre vertu. Nous conseillâmes donc à Denis, Dion et moi, puisque ainsi que son père, il avait été privé d'instruction et privé aussi de société convenable, nous lui conseillâmes, dis-je, de s'étudier d'abord à se faire, parmi ses parents et ses compagnons d'âge, des amis qui l'aidassent à pratiquer la vertu. Nous l'engagions surtout à être d'accord et constant avec lui-même, car c'est ce qui lui manquait. Nous ne lui donnions pourtant pas ses leçons ouvertement, c'eût été dangereux, mais nous ne lui faisions comprendre indirectement, en lui disant que tout homme qui veut se sauver, ainsi que ceux dont il est le chef, doit suivre ses principes, et qu'une conduite différente entraîne nécessairement des effets contraires. En se conduisant ainsi, lui disions-nous, et en apprenant à être prudent et sage, en rétablissant en outre les villes ruinées de la Sicile, en leur donnant des lois et des institutions politiques qui les rendissent à la fois plus soumises à son gouvernement et mieux unies entre elles contre les barbares. Non seulement ils doubleraient, mais il augmenterait dans une proportion infinie la puissance que son père lui avait laissée, et soumettrait les Carthaginois bien plus aisément que Gélon, tandis qu'au contraire son père avait été forcé de payer un tribut aux barbares. Tels sont les conseils que nous donnâmes à Denis, les pièges que nous lui tendîmes, comme disaient alors les calomnies répandues contre nous. Calomnies qui finirent par triompher dans l'esprit du prince, firent exiler Dion et jetèrent la terreur parmi nous. Enfin, pour raconter beaucoup de choses en peu de mots, Dion, ayant quitté le Péloponnèse et Athènes, infligea à Denis la leçon du malheur. Mais, après avoir 2 fois délivré sa patrie et lui avoir rendu le gouvernement d'elle-même, il éprouva, de la part des Syracusains, ce qu'il avait éprouvé de la part de Denis lorsqu'il voulut l'instruire, le rendre digne de l'Empire, et lui rester fidèle toute sa vie. Ses ennemis, naguère, avait répandu le bruit que, dans toute sa conduite, il agissait comme un homme qui aspire à la tyrannie. Il voulait, disait-on, que Denis, entraîné par son goût pour l'étude, négligeât les affaires et lui en abandonnât la direction, jusqu'à ce qu'à force de ruse, il chassât Denis du trône. Alors, pour la seconde fois, ces calomnies triomphèrent dans Syracuse, triomphe incroyable et bien honteux pour ceux qui le remportèrent. Il est nécessaire que vous sachiez comment tout cela est arrivé, puisque vous m'invitez à me mêler des affaires actuelles. Athénien et ami de Dion, je vins pour le soutenir contre le tyran et les réconcilier tous deux. Mais dans cette lutte, je fus vaincu par la calomnie. Denis, qui voulait me retenir chez lui et se ménager en moi un témoin et un ami et comme une justification de l'exil de Dion, chercha à me séduire par les honneurs et les richesses. Mais toutes ces tentatives échouèrent. Plus tard, quand Dion retourna en Sicile, il emmena avec lui deux frères athéniens. Ce n'était pas la philosophie qui lui avait donné ses nouveaux amis, mais c'était plutôt une de ces liaisons à la mode que l'hospitalité et les rencontres dans les spectacles ou les sacrifices font naître tous les jours. Ces deux hommes avaient gagné l'affection de Dion, comme je viens de dire, et aussi en l'aidant dans ses préparatifs de la traversée qu'il voulait faire. À leur arrivée en Sicile, ils ne se furent pas plus tôt aperçus que les Syracusains étaient prévenus contre leur libérateur et l'accusaient d'aspirer à la tyrannie, que non contents de trahir un ami et un hôte, ils le massacrèrent en quelque sorte de leurs propres mains, en venant les armes à la main pour animer ces meurtriers. Je ne veux ni taire ni raconter plus longuement ce crime honteux et impie. Il a trouvé et il trouvera encore des historiens plus empressés que moi. Mais je dois répondre au reproche d'infamie que cette affaire a soulevé contre notre patrie. Si ces lâches venaient d'Athènes, c'était un Athénien aussi, celui que ni les honneurs ni les richesses n'ont pu entraîner à trahir Dion. Aussi, n'était-ce point une liaison vulgaire qui les unissait, mais une communauté d'études libérales qui, pour le sage, est bien préférable à tous les liens de l'âme ou du sang. Ces assassins sont trop vils pour que leur crime puisse être une tâche à leur patrie. Tout ceci soit dit pour servir d'instruction aux parents et aux amis de Dion. Je répète donc pour la troisième fois ce conseil. Puisque vous êtes les troisièmes qui me consultez, faites gouverner la Sicile ou tout autre état, quel qu'il soit, non par des despotes, mais par des lois. La tyrannie n'est bonne ni pour ceux qui l'exercent, ni pour ceux qui la souffrent, ni pour leurs enfants et pour les enfants de leurs enfants. Une semblable entreprise est toujours pernicieuse. Ces violences n'appartiennent qu'aux âmes basses et viles, incapables de connaître, ni dans le présent, ni dans l'avenir, ce qui est bon, ce qui est juste aux yeux des hommes et des dieux. Voilà ce que j'ai cherché à persuader d'abord à Dion, puis à Denis, et en troisième lieu, à vous. Croyez-moi donc, au nom de Jupiter, trois fois sauveur. Considérez ensuite le sort de Denis et de Dion. L'un a méprisé mes conseils et il vit encore aujourd'hui dans la honte. L'autre les a suivis et est mort glorieusement. Car celui qui veut ce qui est bien pour lui-même et pour sa patrie, celui-là ne peut avoir qu'une bonne et belle destinée. En effet, personne de nous n'est immortel. Et celui qui jouirait de ce privilège n'en serait pas plus heureux, comme la foule le croit. Les êtres inanimés ne sauraient éprouver ni bien ni mal quelconque. Mais toute âme doit en éprouver, soit pendant son union avec le corps, soit quand elle en sera séparée. Il faut ajouter foi à cette ancienne et sainte doctrine que l'âme est immortelle, qu'après sa séparation d'avec le corps, elle trouve des juges et des châtiments sévères, et que par conséquent, c'est un moindre mal pour nous de souffrir les plus grandes injustices que de les commettre. L'homme, avide de richesses et pauvre du côté de l'âme, n'écoute pas de pareils discours, ou ne les écoute que pour s'en moquer. Semblable à une bête farouche, il s'approprie sans pudeur tout ce qu'il croit bon à satisfaire ses désirs insatiables de manger et de boire, et à lui procurer toujours ces basses et viles jouissances qui ne méritent pas le nom d'amour. L'aveugle ne voit point que toutes ces violences sont autant d'impiétés, que le malheur est inséparable de toute injustice, et qu'une loi fatale condamne l'âme injuste à traîner avec elle cette impiété partout où elle séjournera dans ce monde et pendant ses courses errantes sous cette terre, fournissant partout la carrière la plus honteuse et la plus misérable. J'avais convaincu Dion de cette vérité et d'autres semblables, et j'aurais bien lieu de me plaindre également et de ceux qui l'ont assassiné et de Denis. Ils m'ont porté à moi et à l'humanité tout entière, pour ainsi dire, le coup le plus funeste. Les uns en massacrant un homme qui voulait mettre la justice en pratique, l'autre en refusant de la pratiquer dans tout le cours de son règne, avec une puissance immense. Lorsque, s'il eût uni la puissance et la véritable philosophie, il aurait donné au monde entier, aux Grecs et aux barbares, une preuve éclatante qu'il n'y a de bonheur ni pour un État ni pour un individu que dans une vie réglée par la sagesse et la justice. Que ces vertus soient le fruit de nos propres efforts ou des soins et de l'éducation de chefs vertueux. Voilà le mal qu'a fait Denis. Les autres malheurs ne sont rien en comparaison de celui-là. L'assassin de Dion ne savait pas qu'il faisait précisément le même mal que Denis. À l'égard de Dion, je suis sûr, autant qu'un homme peut l'être des dispositions d'un homme, que s'il avait conservé la souveraine puissance, il n'aurait jamais tenté d'introduire une autre forme de gouvernement que celle qu'il donna à Syracuse, lorsqu'après l'avoir délivré de la servitude, il l'établit dans la splendeur d'un gouvernement libéral. Ensuite, il aurait mis tous ses soins à lui donner une législation sage et appropriée aux besoins de ses habitants, à repeupler la Sicile, et à l'affranchir du joug des barbares en chassant les uns et en soumettant les autres bien plus aisément que Hiéron ne l'avait fait. Si ses desseins avaient été réalisés par un homme juste, brave, tempérant, philosophe, la vertu aurait obtenu auprès du peuple la même estime qu'elle aurait acquise dans le genre humain tout entier, si Denis avait été docile à nos conseils. Mais une divinité funeste ou quelque homme pervers l'empêcha par son injustice, par son impiété, et surtout par la témérité de l'ignorance, germe et racine de tous les maux pour tous les hommes, et qui porte les fruits les plus amers à ceux qui la cultivent. Oui, c'est elle qui a tout détruit et ruiné pour la seconde fois. Mais cette troisième fois, n'ayons que de bonnes paroles pour que les augures soient favorables. Je ne laisse pourtant pas de vous conseiller, à vous qui fûtes les amis de Dion, d'imiter son amour pour sa patrie et sa tempérance habituelle, et d'exécuter ses volontés comme si c'était celle des oracles. Vous les connaissez, je vous les ai clairement expliquées. S'il en est parmi vous qui n'ont pas la force de vivre à la mode dorienne de leur père et qui veulent conserver les mœurs des Siciliens et des meurtriers de Dion, il faut ne les point recevoir et n'attendre d'eux ni aucune bonne action ni fidélité. Mais engagez tous les autres, tant Siciliens que Péloponnésiens, à peupler la Sicile entière et à y établir l'égalité des lois. Ne craignez rien d'Athènes, car dans son sein, il y a des hommes qui chérissent la vertu et détestent les forfaits de ceux qui assassinent un hôte. Mais s'il est trop tard, si les séditions renouvelées chaque jour vous environnent, tout homme à qui les dieux ont accordé quelque bon sens comprend qu'un peuple déchiré par les divisions ne saurait voir la fin de ses malheurs avant que le paru qui doit sa victoire au combat, aux exils, aux sanglantes représailles, ne cesse ses vengeances et, devenant maître de lui-même, ne donne des lois communes également avantageuses aux vainqueurs et aux vaincus et ne force tout le monde à les suivre par de puissants moyens, la crainte et le respect. La crainte, en faisant sentir le pouvoir qu'il a conquis, le respect, en montrant aussi de l'empire sur ses passions, ainsi que la volonté et la puissance d'observer les lois. Autrement, il n'y a point d'issue possible aux maux d'un État divisé avec lui-même. Les factions, les haines, les inimitiés, les défiances s'y renouvellent sans cesse. Aussi faut-il toujours que les vainqueurs, s'ils ont quelque souci de leur propre salut, choisissent dans leur rang ceux qui ont la meilleure réputation, et d'abord des hommes âgés, mariés et pères de famille, qui aient un domicile, des ancêtres antiques et renommés, enfin une fortune honorable. Dans une ville de 10 000 habitants, il suffira de 50 citoyens de ce rang. Il faut les faire venir à force de prières et d'honneurs, puis les supplier, et les contraindre même sous la garantie du serment, à faire des lois qui établissent une égalité parfaite entre les citoyens, et ne favorisent pas plus les vainqueurs que les vaincus. Les lois, une fois établies, voici de quoi tout dépend. Si les vainqueurs consentent à se soumettre aux lois, plus volontiers même que les vaincus, le salut et le bonheur de l'État sont assurés, et tous les maux vont cesser. Sinon, il est inutile d'appeler ni moi, ni qui que ce soit, pour s'associer à ceux qui ne voudront pas suivre ce que j'ai dit. Ce plan ne s'éloigne guère de celui que, dans notre bonne volonté, nous avions entrepris, Dion et moi, d'exécuter à Syracuse. Ce n'était pourtant que le second. Le premier consistait à tenter, au moyen de Denis même, tout le bien possible, mais la fortune, plus forte que les hommes, s'y est opposée. Tâchez à présent de mieux réussir, avec l'aide et la protection des dieux.